franceinter.fr.
Et la fin de mission risquée de la sonde Cassini qui est aujourd'hui à la une de la science.
Alors déjà Cassini, il y a eu 2 millions de commandes envoyées à la sonde. Il y a 7 lunes qui ont été découvertes. On a fait 132 rencontres avec les lunes de Saturne. Il y a eu 3 milliards de kilomètres parcourus par la sonde autour de Saturne. On a tourné 206 fois autour de Saturne. On a pris 332 000 images jusqu'en 2017. On sera pas loin du million d'images. C'est vraiment une excellente mission et très ambitieuse.
Voilà, c'était la voix de l'astrophysicien André Brahic en 2014 avec aujourd'hui donc la sonde spatiale Cassini de l'ESA partie en 97 et qui devrait se désintégrer dans l'atmosphère de Saturne en septembre prochain. Et d'ici là, donc, les équipes sur Terre entament une série de manœuvres périlleuses comprenant 22 passages entre Saturne et ses anneaux. Gilles Davidovitch, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes planétologue, président du comité de planétologie de la Société française d'astronomie. Alors, le premier passage a eu lieu hier, dans l'après-midi. On a repris contact avec la sonde seulement ce matin.
Et oui, seulement ce matin, parce que la sonde avait été inclinée, la grande parabole de communication avait été inclinée pour la protéger, comme un gilet pare-balles, finalement. Mmh. Et donc, il faut effectivement repositionner tout ça vers la Terre, reprendre contact, vérifier que tout va bien, et c'est le cas.
Alors, 2000 km entre Saturne et ses anneaux, c'est vraiment compliqué de passer pile au milieu ?
Alors d'abord, c'est très très loin et effectivement, c'est une zone qu'on n'a jamais explorée. Donc oui, c'est assez compliqué, c'est finalement le chat d'une aiguille dans lequel on va essayer de se faufiler.
On n'avait vraiment rien exploré jusqu'alors ?
Non, de cette zone-là, c'est une zone finalement un petit peu dangereuse, dans le sens où pour une sonde spatiale, on préfère quand même éviter les poussières de toute taille et voir les petits cailloux ou voir un peu plus gros. Or, les anneaux de Saturne sont précisément des endroits que l'on souhaite éviter quand on navigue
dans l'espace, Saturne, dans l'espace.
Alors, quel est l'intérêt scientifiquement de faire ces passages, puisqu'il va y en avoir 22 ? On recherche quelque chose de particulier ?
Alors oui, on va poursuivre la documentation de toute cette géographie inconnue. Donc, on va regarder un certain nombre de choses. On va se focaliser d'abord sur Saturne, la haute atmosphère de Saturne, essayer de faire des diagrammes, des profils en travers. On va observer la dynamique des gros orages et des tempêtes, des ouragans qui s'y produisent. On va étudier la magnétosphère, donc le champ magnétique, on va étudier l'ensemble des effets plasmiques, c'est-à-dire, vous savez, les particules cosmiques et les particules solaires viennent frapper, comme sur la Terre d'ailleurs, la haute atmosphère de Saturne. Ça provoque des aurores polaires d'ailleurs, comme sur la Terre. Donc on va étudier tout cela, on va étudier la nature de l'atmosphère. On sait qu'il y a de l'hydrogène, on sait qu'il y a de l'hélium, mais on va encore raffiner tout cela, les températures, les choses comme ça. Deuxième sujet d'étude, le vide précisément qu'il y a entre la haute atmosphère de Saturne et les premiers anneaux.
Ouais.
Ce vide de 2000 km qu'on ne connaît pas vraiment. On ne sait pas s'il est totalement vide, s'il n'y aurait pas des nouvelles petites lunes qu'on n'aurait pas vues encore.
Ah oui, il y en a déjà pas mal.
Il y a des centaines des lunes, comme le rappelait le regretté André Brahic. Effectivement, on a découvert grâce à la sonde énormément de satellites, de petites cacahuètes, pour dire la vérité.
Ouais.
Et puis enfin, pardon, excusez-moi, pour terminer, on va se focaliser sur ce premier anneau qu'on ne connaît pas du tout.
Alors c'est précisément parce que c'est une mission risquée qu'elle est faite à la fin de la vie de la sonde Cassini qui va se crasher le 15 septembre. La date est déjà connue, on sait pourquoi on a cette durée de vie déjà prédéterminée.
Alors parce que c'est comme pour les éclipses, c'est la mécanique de Newton que l'on connaît et on peut donc précisément calculer et savoir à la minute près à quelle heure et quel jour nous serons dans l'espace, puisque les ingénieurs du JPL et de la NASA ont fait tous leurs calculs, aussi pour, et on va peut-être en parler, pour sauvegarder, non pas la sonde, mais l'environnement autour de Saturne, notamment Titan et Encelade.
Alors, Cassini va pas s'écraser, mais elle va se désintégrer dans cette gazeuse, comment on appelle les choses
exactement ?
Oui,
c'est très difficile de s'imaginer cela pour des êtres humains, puisque c'est un endroit, un écosystème, comme Jupiter, gazeux, liquide, on ne sait même pas s'il y a une surface sur Saturne.
On ne le sait pas, ça, encore,
non,
aujourd'hui.
On le sait
c'est
pas.
Incroyable, quand même.
Ouais. Et oui, c'est incroyable. C'est une planète gigantesque. C'est presque 700 fois le volume de la Terre. C'est le rayon de Saturne, c'est presque 60 fois le rayon de la Terre. Donc, c'est même pas humain, en fait, de concevoir un tel monde. Voyez-vous, c'est gigantesque.
Ouais. Pourquoi il faut vraiment que Cassini se désintègre ? Elle ne pourrait pas continuer de tourner autour de Saturne
Alors d'abord, la sonde, elle fait à peu près 2 tonnes, un peu plus de 2 tonnes, plus 3 tonnes de carburant à l'époque, sans parler de Huygens, qui était le petit module européen qui est parti se poser sur Titan, qui faisait 350 kilos. Donc ces 2 tonnes, maintenant on arrive quasiment à la fin du carburant, elle va devenir incontrôlable. Sans carburant, on ne peut pas la contrôler. Et pour sauvegarder Titan et Encelade, qui sont 2 lunes très importantes sur lesquelles il pourrait y avoir des molécules macrobiotiques, donc peut-être les briques qui pourraient mener à la vie, on ne veut pas prendre le risque de contaminer par Cassini, qui pourrait être mal désinfecté. Peut-être que Cassini embarquerait malgré nous des microbes endormis à bord.
Ah oui, donc il y a une vraie mesure de sécurité finalement.
C'est la loi. Il y a effectivement des règles internationales. Il y a un droit de l'espace, un droit international où on oblige, on demande aux agences spatiales, l'agence spatiale française, européenne, chinoise, américaine, russe, etc., de désinfecter les sondes spatiales pour ne pas qu'elles contaminent potentiellement Mars ou Titan ou Encelade en l'occurrence.
Alors jusqu'à quelle distance de la surface de Saturne on pourra communiquer avec la sonde? Est-ce qu'on aura des photos très proches?
Aucune idée. Ah non. Sur ça, on sait que non. Elle sera désintégrée très rapidement, quelques minutes après l'injection à l'intérieur des hautes couches de l'atmosphère. Ça va aller très très vite. D'abord, aujourd'hui, elle croise à 34 000 km par seconde. Donc imaginez cette vitesse, hein, c'est une vitesse fantastique évidemment. Et non, malheureusement, on sait d'ores et déjà qu'elle communiquera pas très très longtemps, quelques secondes, peut-être quelques minutes tout au plus, mais on n'aura pas d'image et d'analyse vraisemblablement très précise le 15 septembre.
Mais il y a encore du carburant dans Cassini, alors que cette sonde est partie depuis 1997. Il y a encore des gouttes à l'intérieur de carburant.
Oui, il y a quelques kilogrammes vraisemblablement. J'ai pas les derniers chiffres, mais oui, il y a un petit peu de carburant encore.
Incroyable.
Vous savez, c'est la science de l'économie.
Ah oui, bah oui, là, il faut. Hein.
Exactement. Donc chaque kilo en orbite coûte très très cher, même quand on envoie une sonde de 5 tonnes.
Est-ce qu'il y a un risque que Cassini ne tienne pas jusqu'au 15 septembre, qu'elle rencontre un grain ou...
Ah oui, tout à fait. C'est bien pour cela que la NASA, à chaque fois, va incliner donc cette antenne de communication comme un gilet pare-balles. Tout à fait. Il n'est pas exclu. On n'espère pas, évidemment, mais il est tout à fait possible qu'elle rencontre un grain de glace un peu plus gros qu'un autre ou un grain, un caillou, une petite roche, et que ça vienne percuter la sonde et qu'elle explose ou voilà, qu'elle disparaisse.
Sylvain Ravi, est-ce qu'il y a de la cristallographie dans une mission comme celle de Cassini?
Alors peut-être pas directement, mais on peut par exemple citer ce qui s'était passé sur Mars, où on avait réussi à amener là un générateur à rayons X pour faire de la cristallographie et étudier les sols de Mars.
Ah oui.
On peut aussi étudier des matériaux sous très très forte pression pour essayer de comprendre comment est l'intérieur d'une grosse planète, comme par exemple Jupiter ou peut-être Saturne.
Donc Axel, on se donne rendez-vous le 15 septembre, si tout va bien. Alors,
on espère être là, peut-être en direct avec vous, quelque part en particulier.
Alors la Cité des Sciences, avec la NASA, le JPL, le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, l'Observatoire de Paris et l'Agence Spatiale Européenne, qui sont très impliqués, il faut le rappeler, hein, la France, les chercheurs français et européens sont extrêmement impliqués. André Braille, qui en a été l'un des plus glorieux et évidemment des plus connus, mais il y a des dizaines et des dizaines de chercheurs, d'astronomes et d'astrophysiciens, de planétologues qui sont impliqués. Bon. Donc rendez-vous le 15 septembre. À la Cité des Sciences à Paris.
Et d'ici là, Cassini fera de la science et fera avancer la connaissance. Hein, on l'a compris avec ce que vous venez de nous dire. Merci beaucoup
Merci à vous,
Gilles Davidovitch. Et puis Axel, on se donne rendez-vous demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, des os de mammouth, apparemment brisés par des hommes, relancent le débat sur l'arrivée des premiers peuplements sur le continent américain. Découverts en 2012 et datés de plus de 130 000 ans, ces ossements de mastodonte, une espèce de mammouth américaine, sèment le trouble. Ils ont été trouvés accompagnés de plusieurs grosses pierres rondes regroupées de façon peu naturelle. L'analyse des fractures de ces os, publiée hier, exclut toute action d'animaux carnivores ou de processus géologiques. Ne reste donc plus que des mains dominidées armées de pierres comme hypothèse. Si cette occupation humaine précoce du continent américain est confirmée, elle reculerait l'arrivée des hommes donc en Amérique de plus de 110 000 ans, rien que ça. La triste saison des algues vertes commence mal en Bretagne. Le littoral enregistre le pire printemps depuis 2009 avec des échouages massifs extrêmement précoces. Une mauvaise nouvelle pour la région qui a enregistré une baisse de volume collectée depuis pourtant 2010. Cette pollution due à la prolifération d'algues toxiques est essentiellement due à l'utilisation massive d'engrais à base de nitrates qui regagnent la mer en favorisant leur développement. Malgré plusieurs plans d'urgence mis en place depuis 2011 et une diminution drastique des nitrates utilisés dans l'agriculture, la Bretagne paie aujourd'hui les erreurs du passé car les composés présents dans les sols peuvent mettre plusieurs années à être drainés vers la mer. Et puis pour finir en images, nous vous proposons l'impression en 3D d'un bâtiment par un robot parfaitement autonome. Imaginé par des architectes américains, ce robot bâtisseur est capable, sans la moindre aide humaine, de construire un abri en forme d'igloo, couche par couche et commençant par une couche de mousse isolante. Il va ensuite récolter autour de lui de la matière nécessaire pour faire des murs en béton. Seules quelques finitions nécessitent encore l'aide de l'homme, mais à terme, des escadrons de robots bâtisseurs pourraient être déployés sur Mars ou sur la Lune pour y construire une base avant même l'arrivée des hommes. Une vidéo de ce robot est visible sur la page Facebook de La Tête au Carré.